Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Si vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier, pendant que Jésus annonçait sa passion et son passage vers la vie, les apôtres, eux, étaient en train de discuter entre eux pour savoir celui qui était le plus grand. Jésus les avait repris assez vivement et avait choisi un enfant, l'avait placé au milieu d'eux en leur disant, c'était la conclusion de la page de la semaine dernière, « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Et nous voilà justement avec cette scène, immédiatement après, dans l'évangile de saint Marc, où Jésus parlait encore quasiment avec cet enfant, ou à propos de cet enfant, pendant que Jean dit, ben « Justement, on a vu quelqu'un qui chassait les esprits en ton nom et on l'a empêché parce qu'il n'est pas de notre groupe. » Manifestement, il n'avait rien compris, le pauvre Jean. Ne l'en empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. D'ailleurs, celui qui vous donnera un seul verre d'eau fraîche en votre qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense. La question, c'est est-ce que l'Église est un club fermé? Est-ce que l'Église est un groupe fermé, comme pouvait l'être, comme avait la tentation de le considérer les apôtres? Ou est-ce qu'au contraire, l'Église est ouverte, accueillante à tout le monde? La fameuse phrase qui est difficile, « Hors de l'Église, point de salut », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, le Christ est le seul sauveur. Par le Christ seulement, nous avons la vie, lui qui est mort et ressuscité pour nous. Celui qui ne passe pas par moi ne peut pas aller vers le Père, dit Jésus. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, c'est vrai. Jésus est le passage obligé. Pourquoi ? Parce que Jésus est le visage du Père, il est le Verbe, il est la parole de Dieu, la parole de vérité. Mais est-ce que seuls ceux qui sont baptisés appartiennent au Christ en vérité ? Saint Augustin distinguait deux églises, l'église actuelle, c'est-à-dire l'église visible, l'église des baptisés, et puis l'église spirituelle, tous ceux qui appartiennent au Christ, sans peut-être formellement être baptisés, mais qui par leurs actions droites, par leur conscience droite, appartiennent déjà au Christ. Font peut-être des miracles au nom du Christ. Jésus est très sévère quand il s'agit des petits et des pauvres. Jésus est très sévère quand il s'agit des humbles, des personnes qui sont parfois éloignées, mais qui en réalité appartiennent déjà au Christ. Les apôtres voudraient conserver pour eux ce que le pape dit sans cesse, une église auto-centrée. Le Christ voudrait ouvrir au contraire les portes pour accueillir tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut être sauvé ? La question qu'il faudrait poser, c'est pourquoi n'est-il pas baptisé ? Est-ce qu'il n'est pas baptisé parce qu'il refuse le Christ ? Auquel cas, s'il refuse le Christ, il n'aura pas le Christ davantage dans l'autre vie que dans celle-ci. Mais s'il n'est pas baptisé parce qu'il ignore le Christ, alors il n'y a pas de faute de sa part, et même peut-être il a une vie plus droite que certains baptisés. Il est déjà dans l'Église dans la mesure où sa conscience lui fait suivre les préceptes du Christ, les préceptes de l'Évangile, sans qu'il le sache. Mais s'il le sait, s'il l'apprend, s'il découvre le Christ, s'il découvre l'Évangile, aussitôt il se précipitera pour y appartenir et pour demander le baptême, parce que toute sa vie est une tension vers la vérité, toute sa vie est déjà une tension vers le bien, vers la droiture. Cette opposition entre le plus grand et le plus petit est très significative. On discute pour savoir qui est le plus grand. Jésus renvoie au plus petit. Cherchez d'abord plutôt celui qui est le plus petit, celui qui est le plus pauvre. Parce que celui qui est le plus petit, c'est moi-même qu'il reçoit, quand il le reçoit. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, l'Église nous demande de prier spécialement pour la question des migrants, la question des personnes étrangères qui sont renvoyées, qui sont chassées, qui sont repoussées. Rien n'empêche évidemment un pays de faire de la politique, et il doit le faire, parce que les questions sont graves, les questions sont délicates et difficiles. Mais le principe général de l'accueil est valable pour tout le monde. Le principe général de l'accueil est indispensable, obligatoire. L'Évangile l'impose. Et si on n'accueille pas, je ne fais pas de la politique en disant cela. Je dis que notre cœur doit être ouvert à tous. Notre cœur doit être absolument ouvert à tous, et particulièrement à ceux qui sont pourchassés, à ceux qui sont rejetés. Attention à ce que nous discutions à propos du plus grand ne se retourne pas contre nous parce que nous n'accueillons pas le plus petit. Faisons d'abord, et c'est la suite du texte qui l'explique, faisons d'abord le tri chez nous. N'empêchez pas celui qui prophétise en mon nom. N'empêchez pas celui qui fait des miracles en mon nom, parce que non seulement il m'appartient, mais c'est moi qui suis derrière lui. Attention à celui qui scandaliserait un seul de ses petits. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule, que tire les ânes et qu'on le jette à la mer. Sa mort serait un moindre mal pour sauver sa vie du ciel, sa vie spirituelle. Alors faites le tri chez vous, et d'ailleurs, ce qui chez vous pourrait être une occasion de chute, éliminez-le. D'une façon formelle, d'une façon rigoureuse, si c'est ton pied qui t'entraîne au péché, si c'est ta main qui t'entraîne au péché, si même c'est ton œil qui t'entraîne au péché, coupe ça, débarrasse-toi de ça. Parce qu'il vaudrait mieux entrer borgne ou estropié ou manchot dans le royaume plutôt que d'entrer dans la Géhenne, c'est-à-dire le lieu de la condamnation, le lieu du jugement, avec tes deux mains, avec tes deux pieds ou avec tes deux yeux. Non seulement cherche dans ton cœur pour éliminer rigoureusement ce qui t'entraîne au péché, mais cherchez plus généralement dans votre communauté, dans votre Église, cherchez ce qui vous pousse au péché. Saint Paul pourrait nous paraître parfois un peu sévère quand il dit « Celui-là qui est occasion de chute, qui est occasion de scandale au milieu de vous, rejetez-le. » C'est le rôle de ce qu'on appelle l'excommunication dans l'Église. On excommunie quelqu'un qui est occasion de chute ou de scandale, non pas pour l'éliminer, mais pour qu'il réfléchisse, pour qu'il se convertisse et qu'il vive. L'excommunication n'est jamais une condamnation définitive. L'excommunication est un signalement. L'excommunication est un avertissement pour qu'on puisse réfléchir, se convertir et revenir dans l'Église en étant humble. C'était le psaume. Elle est droite, la parole de Dieu. Elle est parfaite. Purifie-moi, Seigneur, et préserve-moi de l'orgueil. Qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. C'est aussi la signification de l'épître de Saint Jacques à propos de la richesse. Ce ne sont pas les riches que Saint Jacques condamne. Saint Jacques ne condamne pas la richesse elle-même. Il condamne la mauvaise richesse. Il condamne les riches qui amassent pour eux-mêmes sans que le soin des petits, le soin des pauvres, le soin des autres ne les touche, ne les effleure. Alors vos richesses sont pourries, votre argent et votre or sont rouillés, et tout cela vous condamnera. Un peu comme vous rappelez dans l'épisode du désert, la manne, on ramassait la manne qui était nécessaire pour la nourriture du jour, et quand on essayait de faire des provisions, dès le lendemain la manne était pourrie, la manne était mangée par les vers. Donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui la grâce nécessaire à aujourd'hui. Pourquoi entasser des richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, si ça n'est pas pour être utilisé pour le bien? Si ces richesses sont simplement amassées pour le plaisir, amassées pour le profit, alors elles nous condamnent. Quand ces richesses sont au contraire gérées pour le bien, pour accomplir le bien, et particulièrement pour faire du bien aux pauvres et aux petits, alors cette richesse est nécessaire, et il est bon qu'il y ait des riches qui puissent participer à ce bien. La première lecture, elle, insistait, à travers cet événement du livre des Nombres, sur le fait que ceux qui n'étaient pas sous la tente à ce moment-là, qui étaient restés dans le camp, pouvaient aussi recevoir l'Esprit, un peu comme cet homme qui chassait les démons, les esprits impurs, au nom du Christ, n'était pas du groupe des 12, mais pourtant faisait déjà du bien. Prions aujourd'hui spécialement pour qu'en faisant notre examen de conscience, nous puissions regarder en nous ce qui est de la richesse, la vraie richesse. Est-ce que nous sommes pauvres pour le royaume, tout en étant riches de bien peut-être? Est-ce que nous sommes riches devant Dieu de la grâce qu'il nous donne, riches de bien de bonnes actions, riches de bonnes œuvres? Ou bien est-ce que nous sommes au contraire en train de regarder pour guetter celui que nous éliminerons, celui que nous chasserons de notre groupe? Demandons cela à la Vierge Marie, bien sûr. La Vierge Marie, mère de l'Église, la Vierge Marie qui rassemble tout le monde sous son manteau de tendresse, la Vierge Marie, modèle de ceux qui rassemblent, de ceux qui accueillent largement. Demandons la grâce d'une Église accueillante, d'une paroisse accueillante, une paroisse missionnaire. C'est sans doute la meilleure manière d'être missionnaire que d'accueillir largement, d'une façon ouverte, d'une façon très libre. Amen.